La revue de presse internationale, Camille Manière, bonjour. Faut-il vraiment parler de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine?
Alors c'est un débat qui anime la presse mondiale depuis des mois maintenant que dure ce bras de fer des négociations entre Pékin et Washington. Depuis hier, tout de même, les tensions se concentrent à nouveau sur le géant chinois des télécoms Huawei, banni du marché américain mais qui a finalement obtenu un sursis de 3 mois. Le Wall Street Journal y voit un signe que la Maison Blanche a bien du mal à tenir sa ligne dure dans les négociations, en tout cas qu'elle n'arrive pas à vraiment faire peur à Pékin. La Chine, où pourtant on entretient dans la population ce climat bel et bien de guerre avec l'Amérique. Au sens propre du terme, il faut lire cet article du South China Morning Post qui nous raconte ce matin comment la chaîne de télévision d'État CCTV6, spécialisée dans le cinéma, diffuse en boucle depuis jeudi dernier des films de guerre à la place de ses programmes habituels. 3 films et un documentaire qui sont clairement des œuvres de propagande tournées dans les années 50, période de guerre de Corée, donc, et donc aussi clairement anti-américain. Alors ça, par exemple, c'est un extrait du grand classique chinois. Vous aurez peut-être reconnu.
Tout le monde l'avait reconnu, évidemment.
La bataille de la montagne Triangle, filmée en 1956, c'est l'histoire de soldats chinois forcément héroïques qui, par leur ingéniosité et leur courage, arrivent à repousser une armée américaine beaucoup mieux équipée. Et ça ne s'arrête pas là, ajoute l'Asia Times Online. La chaîne ciné de CCTV avait déjà supprimé tous les films américains de sa programmation. Elle va même jusqu'à refuser désormais les longs métrages chinois qui inclut des scènes tournées aux États-Unis. Pour les universitaires chinois cités par le journal en ligne, tout ça tend à prouver, bien que le pouvoir chinois est aux abois, qu'il tente dans un effort un peu désespéré de recourir aux vieilles méthodes de conditionnement des masses pour relancer le sentiment nationaliste et anti-américain, une manière d'apparaître plus fort, surtout face aux négociateurs de Donald Trump. Et en matière de patriotisme économique, l'arme absolue, on y revient, c'est le téléphone portable de marque Huawei, forcément. Hier, Hu Jintao, l'éditorialiste du média d'État Global Times, appelait ses lecteurs à laisser tomber leur iPhone d'Apple pour privilégier la glorieuse technologie chinoise.
Huawei will be affected, but it will not be fatal. Huawei has been seriously working on backup plan for many years.
Hu Jintao explique que Huawei a perdu une bataille en étant banni des États-Unis, mais pas la guerre, que le champion chinois des télécoms va se relever en développant ses propres alternatives aux micro-puces de portables américaines qui dominent le marché. S'équiper d'un téléphone Huawei pour l'éditorialiste chinois, c'est donc un sacrifice en tant que consommateur geek, mais c'est une question de patriotisme économique. En 2019, il semblerait bien que la guerre du rectangle de silicium ait remplacé celle de la montagne triangle.
Et puis on part à présent dans la République démocratique du Congo, où la région du Katanga est au cœur de l'actualité.
Oui, et pour 2 raisons, et même pour 2 hommes, en fait, comme nous l'explique Colette Brackmann dans le quotidien belge Le Soir. 2 Katangais se partagent la une en RDC. Le premier étant le nouveau chef du gouvernement, nommé hier par le président Félix Tshisekedi. Il s'appelle Sylvestre Ilunga Ilunkamba, et outre le fait qu'il est donc originaire du Katanga, ce qu'en retient la revue Jeune Afrique, c'est qu'il semble avoir été désigné non pas par le chef de l'État élu il y a maintenant 4 mois, mais par son prédécesseur Joseph Kabila. Ou en tout cas, sa nomination a fait l'objet d'âpres négociations entre l'actuel et donc l'ancien président, celui qui veut incarner le changement et celui qui continue de peser de tout son poids pour préserver les intérêts de sa famille politique. On se souvient que Félix Tshisekedi n'était pas le favori de l'opposition congolaise dans les élections présidentielles il y a 4 mois face à Joseph Kabila, et sa victoire surprise avait été entachée de contestation. Elle serait le fruit d'une entente entre les 2 hommes. L'entente se poursuit donc avec ce nouveau Premier ministre désigné, mais le plus important n'est pas là, selon le journal en ligne Congo Vox. En fait, la nomination hier d'Ilunga Ilunkamba aurait été précipitée pour faire de l'ombre à l'autre événement du jour, le retour sur ces terres du Katanga de l'opposant Moïse Katumbi, un vrai héros selon Congo Vox, exilé pendant 3 longues années à cause de démêlés avec la justice congolaise, Katumbi a connu un retour triomphal, un accueil sans pareil selon le quotidien indépendant du Katanga. Le phare Katumbi, revenu dans son jet privé, a fait partie des quelques 700 prisonniers politiques à avoir été graciés par Félix Tshisekedi lors de son arrivée au pouvoir. L'homme fort du Katanga reconnaît donc la légitimité du nouveau président. Il affirme aux journalistes de l'actualité de Kinshasa qu'il est revenu pour la paix et la réconciliation, mais il veut encore avoir son mot à dire sur la politique de la RDC. En témoigne cette petite phrase prononcée hier et reprise par toute la presse congolaise. Attention, l'homme est amateur de paraboles. Le véhicule ne peut être conduit que par une seule personne. Si vous êtes deux, vous commettrez un accident. Le message décrypté pour nous par l'actualité est adressé à son ennemi de toujours, Joseph Kabila, pour qu'il accepte enfin de laisser le pouvoir présidentiel à Félix Tshisekedi.
Et puis des journalistes qui s'élèvent contre le limogeage politique de deux de leurs collègues. Ça se passe dans la rédaction du plus respectable des médias russes, le quotidien Kommersant.
Oui, hier nous apprend le site d'info indépendant russe Medusa, tous les journalistes du service politique de Kommersant, un peu l'équivalent du Monde en Russie, a démissionné en bloc et ils l'ont fait, ces journalistes, ils l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Ils voulaient ainsi dénoncer la censure politique qui s'est abattue sur deux des leurs. Ils venaient d'être licenciés pour avoir publié un article qui avait eu le tort de déplaire à la présidente du Conseil de la Fédération russe. Valentina Matvienko, c'est son nom, n'avait pas apprécié de lire dans Kommersant qu'elle risquait de perdre son poste. Elle a donc fait pression sur le propriétaire du journal, l'oligarque du métal russe Alisher Ousmanov, qui lui-même a immédiatement reporté cette pression sur les deux auteurs de l'article. En fait, il les a poussés à présenter leur démission. À la place, eux-mêmes, ces deux journalistes ont dénoncé ces pressions. Ils ont mobilisé leurs collègues qui ont donc pris leur défense en démissionnant collectivement. En tout, 13 journalistes quittent la rédaction de Kommersant, selon la Deutsche Welle, la radio allemande, pour qui cette affaire illustre le poids des influences politiques sur la presse russe. Un contrôle renforcé par les liens étroits qui existe entre les politiciens pro-Kremlin et les hommes d'affaires qui possèdent les médias. Pour le journaliste et opposant russe Oleg Kachin, à lire sur republique.ru, ce qui se passe chez Kommersant, c'est un véritable pogrom des valeurs du journalisme. Mais ce n'est pas nouveau, on précisera qu'Oleg Kachin lui-même a été limogé du journal en 2012.
Merci Camille Magnard, il est 7h42 sur France Culture, suite des matins.